tensions et risques d'embrasement au Moyen-Orient.
On ne veut pas qu'il y ait une riposte à la riposte.
Le monde redoute un affrontement entre Israël et l'Iran.
Ça veut dire à ce moment-là l'escalade et un embrasement que personne ne contrôlerait.
Jour de budget à Ottawa.
Notre économie doit récompenser les efforts des jeunes générations.
Investir dans l'avenir, mais à quel prix?
Avant de commencer à parler d'augmentation des taxes, peut-être se dire, est-ce qu'on gère correctement les finances publiques?
Et un nouveau pont à près de 3 milliards de dollars pour relier Québec à l'île d'Orléans.
Ben, ça n'a pas de bon sens.
Bonjour, ici Claude-Sophie Hennekens. L'Iran prévient ce matin que la moindre réplique israélienne à son attaque de la fin de semaine va entraîner une autre riposte des forces iraniennes. Téhéran précise que l'envoi d'une centaine de drones et de missiles en territoire israélien en fin de semaine constituait simplement une réponse mesurée à la frappe menée contre un consulat iranien en Syrie il y a 2 semaines, frappe que la République islamique attribue à l'État hébreu. Jean-Philippe Robillard, le président iranien a été bien clair ce matin.
Oui, le président iranien, Claude-Sophie, qui a haussé le ton, qui a déclaré que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait une réponse sévère, étendue et douloureuse de son pays. C'est également ce qu'a dit le ministre iranien des Affaires étrangères. On l'écoute.
Si le régime israélien commet une erreur, cette fois, la réponse de l'Iran, comme l'ont annoncé les commandants militaires iraniens, ne sera pas minime, mais immédiate et sévère.
Le cabinet de guerre d'Israël se réunit, lui, encore une fois aujourd'hui.
Oui, pour discuter à nouveau d'une éventuelle riposte de l'armée israélienne. C'est la 5e fois, Claude-Sophie, que le cabinet de guerre se réunit depuis l'attaque de Téhéran en fin de semaine. Hier, il y a l'état-major de l'armée israélienne qui a affirmé qu'il y a une riposte qui se prépare et que l'armée va lancer son attaque au moment qu'elle choisira. Mais on n'a pas plus de détails pour le moment, là, pour l'instant.
Et pendant ce temps, les attaques d'Israël se poursuivent dans la bande de Gaza.
Oui, où Israël se prépare toujours à lancer une offensive contre la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où il y a un million et demi de Palestiniens qui s'entassent, Claude-Sophie, des gens qui ont fui les combats. On écoute Farez, un Gazaoui, qui craint le pire ce matin.
L'attaque de l'Iran, ce n'est pas vraiment ce qui nous importe. Nous, on veut juste retourner dans nos maisons. Nous sommes déplacés. On attend de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, voir si Israël répond à l'Iran ou s'ils essaient juste de détourner l'attention d'une attaque prochaine sur Rafah.
Alors voilà, merci beaucoup Jean-Philippe.
Merci, au revoir.
Et jour 2 du procès criminel de Donald Trump à New York, l'ex-président américain est accusé d'avoir falsifié des documents financiers pour dissimuler le remboursement d'un paiement à une actrice de film porno afin d'acheter son silence. Frédéric Arnould suit le procès pour nous. Frédéric, la sélection du jury a commencé hier, mais aucun jury n'a encore été choisi.
Oui, effectivement, et c'est dû au fait surtout que hier c'était une journée un peu de procédurite. Il y avait beaucoup de motions qui avaient été déposées par les avocats de Donald Trump, même pour demander encore une fois que le juge se récuse. Tout ça a évidemment été balayé du revers de la main. Donc, on avait assermenté déjà une première série de une centaine de candidats jurés. Et ça a commencé vraiment vers le milieu de l'après-midi, ce qui fait qu'on s'est retrouvé seulement avec 10 candidats qui se sont succédés, qui se sont fait poser ces fameuses questions pour tenter de comprendre un peu quels sont leurs penchants politiques, est-ce qu'ils ont un préjugé favorable ou défavorable par rapport à Donald Trump, et puis surtout, s'ils seraient capables d'être impartial et de mettre ce côté, dans le fond, tous ces préjugés, qu'ils soient favorables ou défavorables à Donald Trump. Donc aujourd'hui, c'est évidemment la vraie première journée de sélection, où là, on va passer toute la journée avec ce processus. Je vous rappelle qu'il y avait quand même plusieurs centaines de candidats qui ont été convoqués pour ce procès.
Et à quoi doit-on s'attendre pour les prochaines semaines?
Alors, ce processus de sélection des jurés devrait prendre entre 1 à 2 semaines. Ensuite, le procès en lui-même devrait durer entre 4 et 8 semaines, où vont se succéder des témoins vedettes, comme par exemple Stormy Daniels ou Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump. Et tout ça devrait culminer avec un verdict potentiel du jury, donc qui devrait se tenir aux alentours de la mi-juin, et une décision du juge en cas de verdict de culpabilité sur la peine et la sentence. Ce sera quelques semaines plus tard, donc en plein milieu de l'été.
Merci Frédéric.
Au plaisir.
De retour chez nous, ces jours de budget à Ottawa, le 8e du gouvernement de Justin Trudeau. Mais contrairement au précédent, il a fait l'objet d'une série d'annonces avant son dépôt aux communes. Nous joignons Valérie Gamache pour en parler. Valérie, il ne reste plus vraiment de mystère, si ce n'est l'ampleur du déficit.
Et ce budget devrait être marqué par un déficit plus élevé que prévu. Début mars, le directeur parlementaire du budget évaluait que le déficit augmenterait pour atteindre les 46,8 milliards de dollars pour 2023-2024. Ça dépasserait les prévisions que le gouvernement avait fait à l'automne de 40 milliards de dollars. Le gouvernement Trudeau n'a jamais présenté de budget équilibré ni de plan au retour à l'équilibre budgétaire. Ça ne risque pas d'être le cas aujourd'hui. Les annonces des trois dernières semaines représentent à elles seules de nouveaux investissements de près de 20 milliards de dollars. Évidemment, il y a un accent qui est mis sur le logement et pour Justin Trudeau, ce budget doit être le budget de l'équité entre les générations, un budget qui va donner le ton avant les prochaines élections. On peut écouter le premier ministre.
Les milléniaux et la génération Z sont le moteur de l'économie. On veut qu'ils aient la confiance nécessaire pour investir en eux-mêmes, en leur avenir. On veut leur redonner l'optimisme et les possibilités que leurs parents et leurs grands-parents ont connu.
Et Valérie, du côté de l'opposition, les partis s'attendent à être déçus.
Oui, puisque les conservateurs cherchent des exemptions à la taxe carbone, ce serait surprenant. Le Bloc québécois demande des droits de retrait avec pleine compensation pour tous les programmes qui empiètent sur les compétences provinciales. Ce n'est pas dans les plans. Quant au NPD, il y a plusieurs souhaits qui ont déjà été exaucés, notamment l'assurance médicaments, mais le parti aimerait voir le gouvernement taxer davantage les profits des grandes entreprises.
Merci Valérie.
Au revoir.
À Québec, le gouvernement Legault va faire le point aujourd'hui sur le projet de reconstruction du pont de l'île d'Orléans. Selon nos informations, les coûts du chantier ont explosé. Sébastien Desrosiers, la facture frise désormais les 3 milliards de dollars.
Oui, ça a de quoi faire sursauter quand même. Le coût du projet atteint plus précisément 2,7 milliards de dollars. Il avait pourtant été estimé à quelques centaines de millions de dollars en 2020 par l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel. Tout le monde s'entend pour dire que l'île d'Orléans est due pour une nouvelle infrastructure. Le pont actuel a été inauguré en 1935. On impose actuellement des limites de poids aux véhicules qui l'empruntent pour des raisons de sécurité, mais quand même, ça semble cher payé, surtout quand on compare à d'autres projets d'infrastructures comme le pont de l'île aux Tourtes à Montréal, par exemple, qui compte 6 voies de circulation au lieu de 2, comme celui de l'île d'Orléans, et qui coûtera moins cher, soit 2,3 milliards de dollars.
Et comment on justifie une facture aussi salée?
Bien, évidemment, le contexte économique, l'inflation y est pour beaucoup. Selon nos informations, la facture inclut aussi la démolition du pont actuel. Québec fera sans doute valoir, Claude-Sophie, les difficultés techniques, la complexité associée à la construction dans le secteur. Nul doute que le gouvernement veut aussi montrer qu'il est capable de réaliser un projet de transport à Québec après le troisième lien et le tramway. Je vous rappelle que la ministre Guilbeault garde le cap sur la création d'une nouvelle agence pour chapeauter les chantiers majeurs comme celui-là, dont les coûts explosent. Un projet de loi est attendu d'ici la fin de la session parlementaire.
Merci Sébastien Desrosiers à Québec.
Je vous en prie.
Une chambre de motel en guise d'appartement. La pénurie de logements au pays force de plus en plus de gens à se tourner vers un plan B. Et au Québec, de plus en plus de familles des Laurentides s'installent justement dans des motels pour de longues périodes. Résultat, certains lieux d'hébergement fichent complet soir après soir. René Saint-Louis a préparé ce qui suit.
Bien, présentement, j'habite dans un motel.
Denis paie 1 050 $ par mois pour une chambre. C'est plus que le chèque d'aide sociale de 850 $ qu'il reçoit.
Pour les mois durs de l'hiver. Sinon, habituellement, j'habite dans la rue.
Pour payer son motel et pour se nourrir, Denis fait la quête dans des lieux publics. Il est suivi par la travailleuse de rue Mélanie Bolduc de l'organisme L'Écluse des Laurentides.
Je ne sais plus si ça a doublé, triplé ou... Puis, tu sais, avant, on parlait beaucoup de consommation, santé mentale. C'est plus juste ça. Là. C'est monsieur, madame, tout le monde. C'est un grand-père, c'est un oncle, c'est un père de famille, c'est une mère.
Le manque de logement fait en sorte que les gens qui transitaient par des motels y restent, selon Stéphane Cardi, lui aussi travailleur de rue.
Ce que je fais avec les gens, c'est que, bon, il faudrait trouver une place, mais rassure-toi, c'est juste pour sortir d'où tu es qu'il faut que tu sortes, ou de la rue ou un campement dans le bois. De là, tu vas pouvoir continuer à chercher. Mais quand on continue à chercher, mais il n'y a rien à trouver, bien, ça devient l'aboutissement.
Résultat, plusieurs motels affichent complet, puisque les gens qui pensaient y rester quelques semaines y restent des mois, voire des années. Ici René Saint-Louis, Radio-Canada, Val-David.
Et en terminant, la flamme olympique a été allumée ce matin en vue des Jeux qui se tiendront à Paris cet été. La cérémonie a eu lieu, selon la tradition antique, à Olympie, en Grèce. Voilà, c'était le Radio-Journal. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée.